17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Oui, grand témoin aujourd'hui, Salima Yenbou. Bonjour Salima.
Bonjour Nasser.
Vous êtes députée européenne et puis bien sûr convoquée aux élections du 9 juin prochain parce que vous avez envie de rempiler, parce que comme d'autres personnalités politiques disent, vous n'avez pas fini votre travail, vous avez envie de continuer vos réalisations. Donc députée européenne, dans un contexte de mondialisation effrayant où les gouvernances volent en éclats, la multilatéralité vole en éclats, l'ONU on piétine dessus, l'UNESCO il y a longtemps qu'on la met de côté, l'Europe beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est, on va en parler dans un instant, et donc cette ambiance d'éclatement des multilatéralités, de guerre un peu partout, 44 conflits sur la planète, vous la députée européenne qui êtes très attachée à la Méditerranée, on va en parler dans un instant, qui est attachée à la démocratie locale, à la cohésion sociale, et qui est d'origine algérienne aussi. Vous avez envie de faire briller l'Algérie, le nom de l'Algérie au niveau international. Ça vous inspire quoi, cet état de délabrement planétaire ?
Alors, à vous écouter, je pense qu'il faut avoir beaucoup de courage pour vouloir y retourner, vu le tableau un peu noir que vous avez décrit. Moi, ça m'inspire que il y a du travail et je pense qu'il faut changer de paradigme. Et que les politiques que nous avons mis en place pendant des années n'ont pas eu les fruits escomptés. Donc c'est vraiment dans cette direction, et vous l'avez dit, j'ai commencé à placer des premiers jalons, notamment sur les interactions entre l'Europe et puis on va dire la Méditerranée du Sud, mais l'Afrique de manière générale. Et effectivement, un mandat, c'est pas suffisant. Une fois qu'on a mis ces jalons, il faut construire dessus et construire d'autres choses.
Donc vous êtes candidate bien sûr à la prochaine échéance, le 9 juin 2024, donc vous remettez ça et vous souhaitez bien sûr continuer à la fois vos activités et préparer d'autres projets pour l'avenir. Comment se fait-il que ce continent soit un peu laissé de côté ? Parce que j'appelle continent l'Euroméditerranée, cette espèce d'entité qui longtemps a servi de modèle, longtemps a servi d'expérience pacifique, on pourrait même l'appeler la région pacifique, hein, pour paraphraser l'océan Pacifique. Comment expliquez-vous qu'on mette un petit peu cet endroit de côté, que l'Europe la mette un peu de côté, l'Europe qui se tourne traditionnellement vers le Nord, vers l'Allemagne, vers les États-Unis. Comment expliquez-vous cette espèce d'assignation à résidence de ce qu'on peut appeler le berceau de l'humanité ?
Alors, si je reste sur le mandat qui est en train de se terminer, nous avons un commissaire, Oliver Varelli, qui clairement, sans se cacher, qui est responsable normalement du voisinage global, mais clairement s'est positionné sur le voisinage Est. Donc pendant 5 ans, j'ai dû me battre pour dire attention, on ne peut pas se détourner de la Méditerranée, de l'Afrique de manière générale. Donc ça a été un combat déjà contre ce commissaire hongrois qui ne s'intéresse absolument pas aux questions de la Méditerranée. Donc c'était déjà ce premier combat. Ensuite, sur les questions, et notamment faut revenir en arrière, il y a vraiment beaucoup de choses à repenser sur les relations avec la Méditerranée et l'Afrique. Et les repenser sur la base d'un suivi, d'une évaluation de tout ce qui a été fait. Et ça, on n'a pas cette culture à l'Europe d'évaluer ce que l'on fait et de s'inscrire dans la durabilité. On est beaucoup sur des projets que l'on fait à tel endroit, un peu de saupoudrage, mais qui dure 1 an, 2 ans, 3 ans maximum. Mais ensuite, on est incapable de se poser et de dire, bon voilà, sur ce projet-là, voilà ce qui a fonctionné, voilà ce qui n'a pas fonctionné. On utilise ça pour construire quelque chose de meilleur.
Ça, c'est du côté européen, mais peut-être que les pays du Sud souhaitent plutôt aussi une gouvernance partagée, une forme de réciprocité. Je veux dire, on ne va pas parler des aléas et des séquelles de la colonisation, mais il y a peut-être... comme vous l'avez dit au début de l'émission, hein, il faut changer de paradigme.
Et ça c'est vraiment... J'ai suivi des projets, comme Tfanen, par exemple, en Tunisie, qui est un projet culturel incroyable. Et je l'ai suivi jusqu'à la fin. Et j'ai beaucoup échangé de manière assez cash avec les personnes qui en ont profité, mais aussi les personnes qui ont encadré ce projet. Et les jeunes notamment, parce que c'est aussi c'est sur les jeunes que je travaille beaucoup, les jeunes m'ont dit clairement, on en a marre d'être vu comme le petit qui reçoit de l'argent et qui doit fermer sa bouche. Donc c'était un peu ça. Donc moi ça, je l'ai entendu. J'ai fait remonter au plus haut point et j'ai dit, attention, il faut changer de paradigme déjà en commençant par co-construire les projets. Il ne faut pas que ce soit des projets qui arrivent de la commission comme ça et qui soient un petit peu hors sol. Il faut la co-construire. D'ailleurs, il y a un projet qui a été co-construit de cette manière-là, où on a laissé aux citoyens de la Méditerranée de choisir les thèmes. Et finalement, quand on regarde ces thèmes-là, c'est complètement les thèmes qu'on aurait choisis, nous, Européens, à savoir la jeunesse, le climat, l'état de droit, enfin les droits humains de manière générale, et la démocratie. Donc finalement, nos priorités. Sauf que l'impact est complètement différent, parce que justement, ça vient de la base. Et je crois que c'est le premier point sur lequel il faut travailler. C'est pas parce que l'Europe met de l'argent qu'elle doit tout piloter. Non, il faut co-construire, et il faut co-construire avec la société civile et aller jusqu'aux citoyens bénéficiaires de ces projets.
Alors, on voit bien votre volonté, votre engagement, mais lorsqu'on regarde un peu cette Méditerranée qui recèle les 10 villes les plus chaudes du monde en termes de réchauffement climatique, ben ça c'est la première chose, la planète est menacée en Méditerranée comme jamais. Et la deuxième chose, ce sont les appétits prédateurs des États. C'est-à-dire qu'on a à la fois la Méditerranée occidentale, on voit Chypre, hein, qui a été divisé en deux, on voit la Turquie qui a des velléités sur certaines îles appartenant à la Grèce, on voit un petit peu des choses, on voit des États qui sont dans une forme d'hégémonie, et puis là, alors, ne parlons pas de la Méditerranée orientale, avec le conflit israélo-palestinien, avec la Syrie, etc. Comment résoudre cette équation de à la fois d'œuvrer pour que cette Méditerranée soit un lieu où la biodiversité reprenne ses lettres de noblesse, et puis une Méditerranée qui soit un havre de paix, comme Fernand Braudel le citait, c'est-à-dire une espèce de libre circulation, et que les gens s'échangent sur la base quand même de racines, de patrimoine commun. Comment vous, députée européenne, vous abordez ça?
Alors moi, depuis le départ, depuis 2019, je milite pour une vraie stratégie globale. Notamment sur cette région méditerranée, si on reste là-dessus, mais on
occidentale
peut
et orientale,
voilà,
en même temps.
On peut étendre sur l'Afrique ensuite, mais sur la région méditerranée, qu'on ait une vraie région méditerranéenne avec une vraie stratégie. Par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé sur Erasmus et notamment sur Erasmus international avec des pays tiers.
On l'appelle Erasmus Plus.
Erasmus Plus, oui, parce que ça concerne beaucoup plus que les étudiants. Et on s'aperçoit, quand on regarde de façon très neutre Erasmus en Méditerranée, que c'est complètement inégal. Donc c'est pour ça qu'il faut une vraie stratégie qui permette à tous les pays d'adhérer à ce programme et faire des échanges avec l'Europe, mais pas que. Moi, ce pourquoi je travaille, c'est dire, attention, nous, l'Europe, on a un travail à faire pour les mobilités d'un pays à l'autre, donc du sud au nord, mais il y a aussi un travail à faire, et là vous avez évoqué le Moyen-Orient, mais aussi peut-être des problèmes qu'il peut y avoir entre les pays de la Méditerranée, qu'il y ait des Erasmus sud-sud. Et c'est ça l'idée qui est intéressante, c'est qu'en même temps on fait des liens avec l'Europe, ou que ce soit par exemple, il y a aussi le projet des universités européennes. Ce projet qui comprend 3 universités, 2 européennes et un pays tiers. Et si on élargit à ça, on aurait par exemple l'université d'Alger, une université à Rabat et une université européenne. Et là, on travaille sur les liens entre ces 3 pays. Là, on crée de la cohésion autour de la Méditerranée. Donc c'est vraiment un vrai pilotage, une vraie stratégie globale sur l'éducation, sur le développement durable, au niveau économique. Ensuite, il faut régler aussi les problèmes de visa, parce que quand on parle mobilité, effectivement, on revient au problème de visa. Et si on parle de problème de visa, on arrive au problème de migration. Donc comment on fait en sorte de travailler sur tous ces thèmes-là, qui sont en plus des thèmes transversaux? L'Europe travaille beaucoup en silos. Donc ça, c'est très compliqué de faire sortir tout le monde de ces silos pour travailler de manière transversale.
Ben, Salima Yenbou, depuis tout à l'heure, vous nous parlez de l'Europe, de votre engagement. Vous êtes une militante de base, vous êtes militante associative, vous êtes impliquée dans la démocratie locale, comme je le rappelais. Mais depuis tout à l'heure, vous n'avez pas parlé de la société civile. Vous n'avez pas prononcé ce mot-là. Ça veut dire que vous la mettez de côté. On a vu le sommet des deux rives que Emmanuel Macron a organisé, où il a voulu mettre en avant les sociétés civiles. Quid de ces sociétés civiles?
Alors, j'en ai parlé au sujet de Tfanen, justement. Donc, c'est un des aspects que moi, je défends et je suis réputée pour ça au Parlement européen. C'est justement, et je crois que c'est la grosse erreur qu'on a fait depuis le début, c'est de ne pas faire dialoguer les sociétés civiles, de ne pas mettre dans la boucle, c'est ce que je disais tout à l'heure, de ne pas mettre dans la boucle de la co-construction les sociétés civiles. D'ailleurs, j'avais déposé un projet pilote pour faire dialoguer les sociétés civiles de la Méditerranée. Ce projet pilote a été refusé parce que il y a déjà des fonds qui permettent cela. Donc en fait, il faudrait un projet autour de ça. Donc moi, je à tous les auditeurs, s'ils veulent monter un projet à ce sujet, ça serait vraiment vraiment bien. Et cette société civile demande elle aussi de participer avec en haut lieu sur les décisions. Donc bien évidemment, pour moi, la société civile est au cœur du travail qu'on doit faire de cohésion.
On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan.
Salima Yenbou, on était en train de parler des sociétés civiles. Nombre des pays du pourtour méditerranéen sont de gouvernance autoritaire, pour pas dire plus, que ce soit au niveau de l'Afrique du Nord ou au niveau de l'Afrique tout court. Et les sociétés civiles sont généralement empêchées d'avoir des visas, de circuler, soit sont culpabilisés ou incriminés dans disant qu'ils sont dans une forme de déstabilisation de l'État, parce que etc etc. Comment résoudre cette équation de faire participer cette vraie société civile de femmes, de jeunes qui ont envie de construire leur pays sans qu'ils soient aussi instrumentalisés en disant voilà c'est des gens qui sont une fois de plus manipulés par le Nord, par l'Europe, etc. On est dans un vrai casse-tête.
Alors, quand on monte des projets européens, on voit bien que l'Europe met des conditions. Et une des conditions, et en tout cas c'est ce vers quoi j'irai si j'ai la chance d'être réélue, c'est justement mettre dans ces conditions la présence de la société civile, que ce soit au nord d'ailleurs ou au sud. Donc c'est comme ça qu'on peut impulser. C'est justement sur ces projets-là qu'on a pendant des années on y a mis les droits humains, on y a mis les libertés fondamentales. Et pourquoi pas la participation de la société civile.
En société civile, on peut y mettre les femmes, l'artisanat. Tous les mouvements de femmes qui s'organisent en Afrique du Nord, notamment, qui sont très nombreux, les jeunes qui sont l'avenir un petit peu de la Méditerranée, qui sont sur la création d'entreprises avec l'intelligence numérique, avec le digital, etc. C'est peut-être donner une visibilité, une forme d'accessibilité, parce que souvent c'est un petit peu opaque. Toutes ces associations, toutes ces sociétés civiles n'ont pas d'éléments sur lesquels se raccrocher. Et pour elles, l'Europe, c'est un espèce comme ça d'ensemble, on va pas dire de gros machins, comme l'appelait le général de Gaulle, mais un ensemble un peu anonyme, intouchable, ce à quoi ils n'ont pas droit. Donc, comment les faire, les intéresser, les intégrer dans un processus de construction démocratique de cette Méditerranée?
Alors, ce problème d'aller chercher les plus petits se pose en Europe comme ailleurs. Sur les projets européens. Spécifique à la Méditerranée. Alors, je vais reprendre l'exemple d'Erasmus sur lequel j'ai beaucoup travaillé au début de mon mandat, puisque j'étais rapportrice. La première chose que j'ai fait pour Erasmus, vous verrez la transposition, c'est d'exiger plus d'inclusion. Et notamment d'inclusion de lycées professionnels, par exemple, d'élèves, d'enfants, de jeunes, qui sont les plus éloignés de l'Europe. Donc c'est ceux-là. C'est-à-dire ceux enfin, c'est ceux qui vivent dans les endroits d'où je viens. Moi, je viens d'Aulnay 3000 et je ne savais pas ce que c'était Erasmus. Donc, ça n'est plus acceptable aujourd'hui. Donc, ce travail, il a été fait et maintenant, on voit les résultats. Parce qu'on a suivi, parce qu'on a évalué ça. Donc, il suffit de transposer et de transposer au projet européen. C'est vraiment ça. Co-construire avec, exiger une co-construction avec la société civile, qu'elle soit visible et travailler à ce que les projets européens leur soient accessibles. C'est ça le souci. Si on a réussi à le faire en Europe sur des projets comme Erasmus, qui était quand même avant 2019 un projet très élitiste et aujourd'hui qui s'ouvre énormément, d'ailleurs on n'a même pas assez d'argent, pour répondre aux demandes, notamment des lycées professionnels et de l'apprentissage, on peut faire exactement la même chose au niveau de la Méditerranée. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut une vraie stratégie pour monter des antennes Erasmus, par exemple, partout dans tous les pays du pourtour de la Méditerranée, au sud, parce qu'au nord, elles existent. Et puis, aller chercher cette société civile au cœur des associations, au cœur des villes, pour la mettre en œuvre. Le souci avec ces projets-là, c'est la durabilité. C'est-à-dire que vous prenez une société civile, vous faites un projet, par exemple, d'intelligence artificielle, ça existe déjà, hein, mais on le fait sur un pays, deux pays maximum, avec les jeunes, et ça dure un an ou deux ans, et après, plouf, il n'y a plus rien. Non, c'est vraiment pas ça. Entrer dans une stratégie, c'est se dire, je le fais pendant deux ans comme projet pilote, ça fonctionne, je l'élargis à tous les pays. Et alors, je le garde dans la durabilité.
Alors, dans cette volonté de faire, dans l'énergie que vous déployez, vous avez un projet très concret, le 26 février de prochain, à Strasbourg, et vous souhaitez donner une visibilité à tout ce que vous venez de nous raconter. Donc, le 26 février à Strasbourg, vous voulez sonner le départ de toute cette stratégie, c'est ça ? Qu'est-ce que vous organisez le 26 février ?
Alors, le 26 février, j'organise une exposition, donc on fait le lancement le 26, ça durera toute la semaine, donc c'est à Strasbourg, sur une semaine de plénière. Et je voudrais, enfin, l'exposition s'appelle Euro-Méditerranée, vision et projet pour un avenir partagé. Et ce que je souhaite, c'est montrer qu'il y a déjà des projets qui existent, des projets intéressants qui parlent d'éducation, qui parlent de changement du climat. On sait très bien que l'Afrique sera le plus touchée par ces changements climatiques. Et donc les jeunesses vont vouloir fuir cette chaleur, mais aussi les familles, montrer combien cette région méditerranée est prospère, et comme vous le dites, ouvrir sur une projection, et cette projection, elle est vers l'avenir, vers peut-être, sans doute, en tout cas c'est ce vers quoi je voudrais aller, une vraie région méditerranée, une vraie stratégie, et comment utiliser ces projets pour créer des liens très forts entre l'Afrique et le nord de l'Europe ou la région méditerranée.
Alors, ce 26 février, quels sont les acteurs que vous impliquez ?
Alors, bien évidemment, la société civile, parce que oui. On en a parlé tout à l'heure, mais aussi des personnalités qui travaillent sur la Méditerranée. Il y aura évidemment d'autres députés. Pour l'instant, on est en train de un petit peu construire ces interventions, mais ce sera assez large et avec une volonté partagée.
Peut-être de mettre en visibilité les moyens, les perspectives de financement de réalisation concrète, parce que c'est de ça dont souffre la société civile, c'est qu'elle ne sait pas à quelle porte frapper, à ce à quoi elle a droit, et aller à chaque fois face à un mur, et peut-être lors de ces 26 février, peut-être offrir soit des plateformes, soit entre guillemets leur prendre la main pour leur dire voilà ce dont vous pouvez bénéficier, voilà à quelle porte frapper, etc., etc. Peut-être les inscrire dans une dynamique aussi de financement de leurs actions.
Effectivement, ça c'est un travail que je fais assez régulièrement avec les associations de la société civile qui m'interpellent sur mon adresse mail. Donc j'essaie de les diriger vers les lieux, les hubs d'entrée, mais ça ne suffit pas, parce que par exemple, si vous regardez Europe Créative, qui est le programme européen de la culture, il y a un volet pour les pays tiers, et on s'aperçoit encore que c'est compliqué pour les Européens. Donc imaginez pour les Africains ou le sud de la Méditerranée, où finalement les textes sont en anglais, par exemple. Donc ça, c'est aussi une barrière. Donc on est en train de travailler pour faciliter et pour utiliser aussi tout ce qu'on a mis en place pendant ce mandat pour essayer de faciliter pour les Européens. On doit le transposer pour les pays tiers et permettre aussi la création de consortiums. On s'aperçoit que malgré les compétences qui existent de l'autre côté de la Méditerranée, monter un consortium, c'est s'arracher les cheveux. Sauf que monter un consortium, c'est très important parce que ça va faciliter justement aux sociétés civiles de participer à tous ces programmes. Donc c'est vraiment cette porte ouverte. Il y a un début de changement de paradigme parce que j'ai beaucoup œuvré pour dire attention, et ça c'est aussi ma double culture qui me permet ça, qui me permet une compréhension fine de ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée et que j'apporte à l'Europe en disant attention, les problématiques sur le terrain, c'est celle-ci. Donc il va falloir qu'on travaille dessus si réellement on veut aller sur une stratégie qui porte ses fruits. Moi, pour moi, le sud de la Méditerranée et l'Afrique, de manière générale, doivent devenir des acteurs internationaux importants. Et pour avoir une vision globale plus
pour
équilibrée.
Pour devenir des acteurs importants, il faut qu'ils partagent la gouvernance.
Exactement. Mais c'est exactement ça. C'est au cœur de notre travail, en tout cas du mien, de partager cette gouvernance. J'ai dit clairement, ça suffit d'arriver avec des programmes qui ne répondent pas forcément aux besoins ni aux désirs, parce qu'il faut penser aussi aux désirs quand on parle de culture, par exemple, du terrain. On apporte des fonds, ok, on se pose autour d'une table, on apporte les acteurs qu'il faut, dont la société civile, et on travaille ensemble pour co-créer ces programmes. Et c'est comme ça qu'on trouve l'adhésion de l'autre côté de la Méditerranée, et c'est comme ça que l'on construit des programmes durables.
Alors on comprend bien votre stratégie, votre façon de faire, mais comment vous gérez cette espèce de tenaille, de mâchoire? D'un côté, vous avez un vent de xénophobie qui souffle sur toute l'Europe, donc qui a une certaine frilosité à s'occuper des gens du Sud. C'est pas leur problème parce qu'ils sont dans leur pouvoir d'achat, ils sont dans la fabrication de murs contre une invasion hypothétique de l'immigration. On voit tous ces fantasmes. Et de l'autre côté, dans les pays du Sud, une espèce de on accuse les sociétés civiles ou toutes ces procédés un peu européens d'ingérence dans les pays en question. Frilosité et xénophobie au nord, suspicion d'ingérence dans les affaires intérieures des États. Comment vous sortez de cette mâchoire, de cette tenaille?
Je me bats au quotidien pour sortir de cette tenaille. Et je crois que là, c'est aussi ma double origine qui me permet de parler clairement aux uns et parler clairement aux autres. Ensuite, effectivement, si on tient compte que de ces tenailles, on ne fait rien et on se dit, c'est fini, on n'y arrivera pas. Moi, je crois vraiment que la co-construction permet d'éviter l'ingérence. Et les résultats positifs permettent de fermer le bec aux xénophobes. Donc c'est dans la réussite, dans le pari de la réussite, que l'on va permettre de fermer cette parole-là. Et puis pour l'ingérence, de toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour dire qu'il y a de l'ingérence. Nous aussi, on dit qu'il y a de l'ingérence. Donc moi j'avance. Parfois, il vaut mieux pas trop écouter. Juste prendre ce qu'il faut pour rassurer de chaque côté. C'est ça aussi, c'est rassurer des deux côtés. Et ça, c'est vraiment qui je suis, c'est mon profil qui permet de rassurer des deux côtés pour pouvoir avancer.
On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan.
Salima Yenbou est notre grand témoin. Dans cette dernière ligne droite, Salima Yenbou, députée européenne qui veut rempiler le 9 juin et on comprend pourquoi vous voulez rempiler parce que vous avez fait un sacré boulot depuis ces années-là et vous avez envie de continuer et vous avez bien raison. Salim Ayenbou, peut-être qu'il y a une idée, de, peut-être deux idées plutôt, de résoudre cette équation à la fois de xénophobie au nord et de frilosité au sud, c'est peut-être d'enjamber tous les nationalismes étriqués, peut-être d'aborder les questions de diversité, de biodiversité, lorsqu'on voit qu'il y a des incendies, la Méditerranée se solidarise pour éteindre tel ou tel incendie, de formation de sapeurs-pompiers ou d'élèves infirmières, lorsqu'il y a un tremblement de terre, on voit bien la solidarité. Peut-être qu'il y a une façon peut-être d'enjamber par de grandes solutions au niveau de la biodiversité, au niveau d'un Erasmus, peut-être de la formation professionnelle, d'échapper à chaque fois aux tenailles, entre guillemets, des structures politiques un peu autoritaires. Donc de ne pas rentrer dans leur jeu et peut-être de définir comme ça, à l'échelle méditerranéenne, des choses qui ne sont pas conditionnées par telle ou telle réticence nationaliste ou autre, quoi.
Alors c'est complètement ce que j'ai choisi de faire depuis des années, justement pour contourner ces problématiques qui d'ailleurs sont changeantes. Et justement il y a deux sujets que je prends assez régulièrement, c'est l'éducation et la formation et la culture. Ce sont deux thèmes sur lesquels je travaille beaucoup. Alors l'éducation, forcément, ça me parle beaucoup puisque j'ai été professeur des écoles. Ensuite j'ai passé des diplômes et j'étais proviseur de lycée professionnel. Et là, on arrive sur la formation professionnelle. Et Erasmus, qui est un projet de mobilité entre les Européens, mais aussi de l'Europe avec les pays tiers, dans les deux sens, je le rappelle. Et je crois qu'il est important de miser sur l'éducation de manière générale, mais pas que l'éducation élitiste. Effectivement, la formation professionnelle dans différents métiers doit faire partie des échanges qui sont faits entre l'Europe et la Méditerranée et l'Afrique de manière générale. Ensuite, il y a ce travail d'inclusion. C'est-à-dire que ce que nous, on exige ici en Europe doit être aussi exigé de la part des pays tiers, sans aucune ingérence, c'est la parité. Qu'il y ait des femmes, par exemple, qui fassent aussi partie de ces formations ou de l'éducation, même élitiste, peu importe, les personnes porteuses de handicap. On est vraiment sur une inclusion très large. Donc, c'est vraiment ce que je porte depuis le départ, un Erasmus de la formation professionnelle, à l'instar de ce qu'on a fait ici en Europe. Après, ça questionne aussi des choses importantes. C'est le visa. Et c'est ça le cœur des problématiques pour faire venir ou faire partir des jeunes. Bon, c'est plus dans le sens Afrique vers l'Europe. Et pourquoi pas développer l'idée d'un visa européen et non pas un visa pour un seul pays, puisqu'on a justement cet espace Schengen qui permet de traverser les frontières ici en Europe. À partir du moment où on accepte une coopération avec un pays du Sud, ouvrir ce visa à l'Europe et permettre à ces jeunes de faire une partie de leur Erasmus en France et ensuite d'aller, en Pologne, faire une deuxième partie de manière très simple. Et ça permettrait justement de développer cette question, vous l'avez dit tout à l'heure, cette Europe, qu'est-ce que c'est ? Et là, j'arrive sur la culture. La culture est un bon sujet aussi pour créer des ponts entre les uns et les autres. C'est un bon sujet aussi pour l'émancipation, au même titre que l'éducation. Et c'est ça l'objectif. C'est comment créer une émancipation de ces jeunesses pour qu'elles puissent soit créer leur entreprise, soit venir se former en Europe, soit des Européens qu'ils aillent aussi se former dans les pays du Sud pour créer des ponts, des réels ponts entre ces sociétés civiles, entre ces citoyens, cette jeunesse, pour que ce soit des liens durables. Et c'est ça l'intérêt, et c'est ça que j'ai envie de porter.
Salim Ayenbou, on a bien compris que votre vision euro-méditerranéenne, ce n'était pas une rhétorique qui s'adresse aux fonctionnaires de l'entre-soi, mais une volonté de s'adresser aux jeunes et à ceux qui font la Méditerranée, hein, ceux qui vivent en Méditerranée, et notamment sur cet Erasmus de la formation professionnelle. Et vous avez parlé de l'éducation. Vous avez des associations, des think tanks comme Humaniv, hein, qui sont en train de préparer une université de mobilité et des résidences culturelles. On rappelle d'ailleurs que dans que dans les objectifs après le sommet des deux rives, dans les engagements de Marseille, on retrouve ces Erasmus aux chefs d'entreprise, aux femmes, aux membres des associations pour circuler. On retrouve un peu tout ça. Comment faire pression peut-être sur les institutions pour que ce visa ne soit pas une utopie. En fait, je voulais surtout vous poser la question sur l'éducation. Est-ce que, par exemple, une association comme Humaniv préconise l'enseignement obligatoire de l'arabe, du tamazir, de l'anglais, de l'espagnol dans toutes les écoles du pourtour méditerranéen? Déjà que ce soit 4 langues obligatoires, d'ailleurs on peut rajouter l'italien ou l'espagnol en fonction des endroits, mais est-ce que le fait de parler ces langues, c'est pas parler méditerranéen aussi? Est-ce que c'est peut-être une solution, que les gens se parlent?
Alors là, vous parlez à une européenne convaincue, donc forcément les langues sont importantes. Et on voit bien que nous, à l'Europe, on a nos 24 langues officielles. Donc, si on veut créer une région méditerranée, forcément, ça passera par la présence de ces langues-là.
Il faut ces langues, parce que vous allez participer à Rabat. Pardon. Vous participez à Rabat bientôt, à l'UPM, à la réunion de l'Euroméditerranée. Et on trouve que la langue d'expression, c'est l'anglais. C'est pas l'arabe, c'est pas le tamazir, c'est pas le français, c'est pas l'espagnol. Donc c'est quand même voilà. L'anglais, ce qui est une langue, bien sûr, une très belle langue, est la langue de l'Europe et la langue de l'Euroméditerranée. Pourquoi les langues méditerranéennes ne sont pas il faudrait que ce soit des langues obligatoirement enseignées et apprises par les petits méditerranéens?
Oui, non, mais je partage complètement. UPMED, on peut s'exprimer dans la langue que l'on souhaite, donc les langues européennes, aussi l'arabe. La dernière réunion qui s'était déroulée à Bruxelles, j'y ai participé, les pays du Sud se sont exprimés en arabe et je trouve ça très bien. Il faut poursuivre là-dessus. Et effectivement, il faut aller jusqu'à l'apprentissage et avoir des langues officielles, comme vous le dites. Et là, on est dans la construction réelle cette zone méditerranée, cette région méditerranée. Et moi, je suis persuadée que, tout comme l'Europe, c'est Jean Monnet qui disait ça, si je devais recommencer, je commencerais par la culture. Ben, là, c'est exactement la même chose. On a la chance de créer une région méditerranée, en tout cas d'avoir le pouvoir de le faire. Et c'est vers ça que je tendrais. Et il faut commencer justement par la culture.
Une région qui est un mini-continent. C'est un mini-continent,
exactement.
C'est un continent.
Oui, exactement.
Et donc, on a bien compris que face à toute la léthargie, à toute l'inertie qui malheureusement est prégnante depuis de nombreuses années, vous voulez construire une citoyenneté méditerranéenne. On le sent bien dans vos propos, cette citoyenneté méditerranéenne qui doit s'affirmer, parce que on parle de citoyenneté européenne, on parle de choses comme ça, mais une citoyenneté européenne, et vous avez envie d'y faire participer la jeunesse de tous les pays, parce qu'en de France, et c'est votre chantier pour faire votre campagne pour le 9 juin, j'imagine.
Exactement. Quand on regarde l'Europe, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent, notamment une façon de vivre, une culture commune, et c'est la même chose pour le pourtour méditerranéen. Il y a beaucoup, moi j'ai beaucoup voyagé en Méditerranée, que ce soit au nord ou au sud, dans le cadre justement de mon travail, et il y a tellement de similitudes que c'en est évident, et je ne comprends pas que depuis des années personne n'ait vu cette évidence qu'on se ressemble beaucoup au pourtour méditerranéen, que ce soit des Italiens, prenez par exemple en termes de culture tout ce qui est l'alimentation. C'est vraiment exactement les mêmes choses, le régime méditerranéen. Et comment, enfin, nos Français qui aimons bien manger, ça a une importance et on s'aperçoit qu'il y a vraiment quelque chose qui nous rassemble et il ne faut pas céder à la facilité d'utiliser l'anglais, mais au contraire de valoriser toutes ces langues-là de la Méditerranée en les parlant, en les apprenant, en se formant des deux côtés de la rive à toutes ces langues-là, dont l'arabe.
D'ici le 9 juin, quel est votre calendrier? Quels sont, est-ce que vous, j'imagine que vous avez des déplacements, vous avez des choses comme ça. D'ici l'échéance du 9 juin, quel est un peu votre agenda?
Alors moi, je continue. J'ai fait un tour de France des lycées professionnels. Donc je vais le poursuivre jusqu'au 9 juin. Mon travail ne se termine pas pour essayer de faire comprendre l'Europe aux jeunes qui sont les plus éloignés, ceux de nos quartiers, qu'on le retrouve en lycée pro. Des déplacements, ben vous avez parlé de Rabat, ça va commencer un petit peu à diminuer, il nous reste 2-3 plénières. J'ai quelques dossiers à terminer, notamment sur le travail forcé, par exemple, c'est un dossier sur lequel j'ai beaucoup travaillé, l'éradication du travail forcé en dehors de nos frontières, et dans les nôtres s'il y en a. Voilà, poursuivre mon travail sur la Méditerranée, ça reste quelque chose de très important pour moi, pour enfoncer justement les premiers jalons que j'ai portés. C'est ce que je ferai à Rabat de manière très active pour se projeter sur cet avenir d'une Méditerranée réelle, d'un pourtour méditerranéen qui est fier de ce qu'il peut porter.
Et finalement, l'inclusion dont vous parlez, Salima Yenbou, c'est peut-être la meilleure façon d'œuvrer, de fabriquer la paix?
Oui, on peut le voir comme ça. Et de toute façon, l'objectif, voilà, j'adore. Et vous avez raison, créer des liens entre les gens, créer des ponts entre les gens, c'est ce que nous avons réussi à faire en Europe.
C'est éloigner la méfiance.
C'est éloigner la méfiance, c'est se connaître, c'est connaître l'autre, voilà, créer des dialogues. Et c'est comme ça qu'on crée une paix durable. Donc voilà.
Salima Yenbou, c'est le mal qu'on vous souhaite pour le 9 juin. De continuer votre travail sur la Méditerranée. Et bien sûr, vous revenez quand vous voulez. On vous suivra d'ici le 9 juin. Et à très bientôt, Salima.
À très bientôt, avec grand plaisir.
Merci d'être venu.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.